de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Faire famille, une série d'Émilie Chaudet réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a la question de la PMA pour toutes et toutes les familles qui nous entourent. Névrosées, nombreuses, monoparentales, dysfonctionnelles, bienveillantes, chaleureuses ou toxiques. Et il y a les histoires qui les fabriquent, les disloquent et les regroupent. Alors pour commencer, les personnages. Une mère de 14 enfants, une fillette et ses 4 parents, des amis, une mère qui a fait des jumeaux toute seule et l'enfant d'une communauté. Ensuite le décor, des couches, des chambres, des parents, la crèche et l'école, des arbres généalogiques, des machines à laver, des couples ou pas, des grandes tablées, la honte et la normalité qui n'existent pas. Aujourd'hui, 4e épisode, on arrive en plein rush.
Faire famille. Émilie Chaudet, Jean-Philippe Navarre. 4e épisode, rester groupé.
Vous allez bien ? On est en avance. Pas de problème. Marielle.
Bonjour. Enchantée.
Espérance, Charles, Domiti.
Pierre-Éloi.
Eugénie.
Merci. Non, c'était au fan, maman.
Oui, non, c'était au fan, Philippe.
Félix, il n'est pas encore rentré, non, il rentre à 5h30. Et puis, et il y a Augustin aussi, voilà.
Tout en haut, il y a Victor. Ensuite, il y a Paul, Édouard, Clémentine, Henri, Louis, Théophane, Félix, Pierre-Éloi, moi, Augustin, Charles, Eugénie et Domitille.
14 enfants, voilà. Après, il y en a un qui travaille à Londres, une qui étudie à Londres, un qui est en Erasmus à Bonn, et voilà, un qui se marie cet été, qui va partir aussi. Aujourd'hui, c'était une grosse journée parce que ce matin, j'étais à l'IUT. Il y avait toutes les copies. Donc, les étudiants ont consulté leurs copies et j'ai des rapports de stage à lire. Donc, c'est une grosse période. Mais c'est vrai que quand ces périodes intenses à l'IUT sont passées, j'ai quand même toute la journée pour pouvoir m'organiser pour que le soir, ça se passe sereinement. Je m'appelle Marielle Blanchier. J'ai 50 ans et 14 enfants. On habite à Sceaux. Voilà.
Qu'est-ce que vous faites, votre mari et vous, dans la vie ?
Alors, mon mari travaille, est ingénieur en sécurité informatique dans une banque. Et moi, je suis enseignante à l'IUT en achat qualité. Voilà. À cette heure-ci, on fait le travail. Et puis ensuite, on fait le bain. Ensuite, on met la table. Ensuite, avant de manger, parce qu'on mange tôt, on mange à 6h30. Ils ont le droit de regarder un petit C'est pas sorcier.
Et c'est vous qui vous occupez du bain, des devoirs ?
Ah oui, bah oui.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a une organisation très stricte qui
ne varie pas. Oui, en fait, c'est une organisation très stricte, effectivement, qui ne varie pas, mais en fait, qui permet beaucoup ensuite de liberté et de paix, en fait. On réinvente pas notre journée tous les jours, hein, ni les repas, ni voilà. C'est vrai qu'une semaine sur deux, ils ont l'habitude de manger des lasagnes tous les 15 jours. Il y a plein de choses qui reviennent comme ça. C'est vrai que ça permet une certaine souplesse par rapport à une vie, en fait. On relit sans cesse les choses qui n'ont pas marché. Là, le repas était trop compliqué, où il n'y avait que des choses qui étaient un peu nouvelles, que les enfants n'ont pas aimées. Bah, les choses nouvelles, on n'en fait pas deux d'un coup, on n'en fait qu'une, on introduit des choses différentes. On relit les choses et puis on réadapte. Et puis, c'est vrai que, par exemple, pour le stress d'un CP, on n'a plus le même stress au 10e, au 12e même. Au 12e CP, on n'a pas le même stress que quand on a son premier CP. On ne sait pas où sont les repères, on ne sait pas ce qu'il doit faire, on ne sait pas. Et puis là, je me dis, bon, si ça et ça, il ne le sait pas maintenant, on a encore 2 ans pour l'apprendre, vous voyez. Et puis il y a des choses, des points de passage, je me dis, bon, là, c'est obligé, on s'assoit, on le recommence jusqu'à ce que ça soit su.
Comment tu t'appelles, toi ?
Billy.
Billy, t'as quel âge ?
2 ans.
Et c'est qui tes parents ?
Papa.
Et qui d'autre ?
Maman.
Et qui d'autre ?
Papa. Nous deux.
Et là ? Ouais. T'as combien de parents, toi ?
2 parents.
2 parents ?
Ouais.
2 plus 2.
Maman.
Et c'est quoi le prénom de maman ?
Sarah Lek.
Ah, Sarah Lek. Je m'appelle aussi. Mon nom de famille, c'est Lek, donc elle m'appelle Sarah Lek. Et le prénom de papa, c'est quoi ?
Comment je m'appelle, Mini ?
Luc.
Et le prénom de Ludo ?
Ludovic.
Oui, et le prénom de Yaya ?
Enik.
Exactement, bravo !
Alors, moi, je m'appelle officiellement Yannick, et pour les intimes, c'est Yaya, notamment pour Billy. Voilà, j'ai 41 ans, et donc je suis en couple avec Sarah depuis presque 9 ans. Billy, c'est mon enfant. Voilà. Et je suis sa yaya. Donc c'est très drôle parce qu'à chaque fois, à la crèche, elle demande souvent où est la yaya des autres enfants. Donc il n'y a pas de yaya des autres enfants. On lui dit qu'elle est là. Quatre parents, mais voilà. Et c'est ma Billy, d'amour. Mon petit bébé d'amour.
Donc je m'appelle Ludovic. Mon diminutif, c'est Ludo. Pour Billy aussi, hein, c'est Ludo. Ça a été Gugo pendant un certain temps. Et oui, c'est ma fille.
Je m'appelle Luc, donc je suis le papa de Billy. Papa Luc, parfois. Hein, Billy ?
Oui.
J'ai 36 ans. C'est ma petite fille, je suis son papa.
Moi, je m'appelle Sarah et je suis la maman de Billy. Parce que c'est moi qui l'ai portée et qu'elle m'appelle maman. Après, je ne considère pas que c'est avoir un statut particulier que d'être la maman, mais juste, moi, c'est... On m'appelle maman. Je suis la maman de Billy, j'ai 36 ans. Donc Billy est ma fille et notre fille. Tu manges des brocolis ?
Non, de la purée.
Ah, de la purée ! Et là, qu'est-ce qu'on est en train de te préparer d'autre ?
Du jambon.
Du jambon.
Et quoi d'autre ?
Qu'est-ce que t'as mangé qui était rouge ?
Tomate.
Tiens, d'accord. Un petit bout de fromage. Je te donne du pain.
Tu peux le tremper dans la purée aussi. Hein.
Est-ce qu'on prend un yaourt aussi après ?
Ouais.
Un yaourt ou un petit suisse ?
Non, un petit suisse.
Un petit suisse ? Un petit suisse de quelle couleur ?
Le bleu.
Ah.
Et ma purée, toujours pas bleue.
Non. Non.
Pourtant, hier, elle s'est couchée très très tard pour te faire de la purée, tu te rends compte ? Elle a écrasé les pommes de terre à la main,
bien.
Il m'aurait peut-être pas fallu dire ça, d'ailleurs.
Ça a commencé quand, il y a presque 20 ans, il y a 18 ans.
Ouais.
Quand Luc et moi, on avait 18 et 19 ans, on était à Bordeaux, étudiants à Bordeaux au conservatoire de théâtre. Et on était amis. Et déjà à cette époque-là, on se disait, si à 30 ans on n'a pas d'enfant, on fera un enfant ensemble.
Et on l'a fait. Voilà.
Je pense qu'on ne sait pas... Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas projetée dans le fait de changer de statut d'ami à parent. J'ai juste imaginé qu'on allait devenir des amis parents. Voilà.
Ouais, des amis qui avaient un enfant. Pour moi, je voyais comme ça. J'imaginais comme ça.
On était déjà chacun en couple. Donc moi avec Yannick, Luc avec Ludo. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer cette histoire à quatre.
Alors moi, quasiment dès le début de notre relation, Sarah m'a dit qu'elle voulait un enfant. Et moi, j'avais toujours dit que je ne voulais pas d'enfant. Et puis en fait, elle est assez maligne, donc ça s'est fait au fur et à mesure, petit à petit, sans pression. Et puis le fait de connaître Luc et Ludo aussi au fur et à mesure. Et j'avoue que j'aimais bien en fait l'idée aussi du schéma familial à quatre, qui quand même permet d'avoir du temps aussi à deux. Moi, je trouvais que cette configuration me convenait bien.
Et vous ?
Luc m'en a parlé aussi, pas aussi tôt je pense, mais il m'en a parlé, il m'a dit que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et moi, de mon côté, effectivement, je n'avais pas forcément de désir de paternité moi-même, mais j'en avais envie malgré tout. Donc c'est une situation qui me plaisait au fond de moi, je pense inconsciemment, et qui me permet aussi d'être parent sans être complètement le père unique. Sur le principe, c'est comme si j'étais le père. Après, c'est vrai, comment on se partage l'éducation de Billy, le temps aussi, en fonction de notre temps professionnel. Comme dit Yannick, on a la possibilité d'être parent à temps plein et en même temps de pouvoir se reposer les uns sur les autres pour s'organiser, ce qui est très pratique quand on en parle à d'autres parents qui sont dans un schéma plus traditionnel.
Je m'appelle Patricia, je suis née en 61. Je suis la maman de jumeaux, deux garçons, qui ont 7 ans maintenant. En fait, moi, ce qui m'aurait paru le plus naturel, ça aurait été de les faire à deux. J'étais seule, donc l'évidence, c'était, je veux un enfant, je veux pas finir ma vie sans enfant. Comme ça s'est pas réalisé quand j'étais jeune, j'ai concrétisé, j'avais 50 ans. Ce qui paraît assez fou, quoi. J'ai tout envisagé, en fait. J'ai envisagé la rencontre d'un soir, j'ai envisagé de demander à un copain un don de sperme, j'ai envisagé des sites aussi sur lesquels on peut rencontrer des hommes pour la coparentalité. Ben, en fait, j'ai pas trouvé de réponse de ce côté-là. J'ai directement opté pour le choix de double don, le don d'ovocytes et le don de sperme. Ces enfants n'allais pas avoir mes gamètes, mais c'est moi qui les ai portées. À partir du moment où j'ai fait le choix de ce double don, je sais qu'il fallait procéder à quelques examens médicaux, déjà pour voir si moi, personnellement, j'étais en forme physiquement pour recevoir une grossesse. La clinique m'avait demandé de faire un petit listing, enfin de répondre à des questions d'ailleurs, sur mes choix. Et moi j'ai choisi un type européen, je voulais qu'il me ressemble un peu. Et j'avais aussi des photos de moi à donner pour qu'ils se fassent une idée, je pense, dans leur catalogue des donneurs et des donneuses. Donc une fois ça établi, donc ça nécessite un voyage là-bas en Espagne. Il y a des traducteurs sur place et on est très bien accueillis. Il y a beaucoup de Françaises qui vont là-bas. Ils veulent savoir les motivations des personnes. Et deuxième voyage, c'était directement pour l'implantation.
Moi, je pense que cette histoire, elle est née parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, ce que je pense est important, c'est que quand on était amis à l'âge de 20 ans, on a été aussi amants à un moment. On était déjà tous les deux homosexuels et l'un et l'autre. Il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à nous. Nous, on savait qu'on avait un papa et une maman. Ce qui, je le dis, est très important pour moi, n'est pas un schéma que je revendique. Je suis très heureuse que ma fille ait un papa et une maman, mais ce n'est pas un schéma que je revendique. Et là, on a décidé, soit on avait une possibilité de faire que Luc donne son sperme dans une seringue et qu'on m'insère le sperme et que je puisse ou pas tomber enceinte, ou on avait l'autre possibilité d'essayer de faire un enfant de manière complètement naturelle. On s'est dit qu'on était complètement capable de le faire et même plutôt heureux de le faire. Et moi, personnellement, je me disais, j'étais très heureuse de me dire que j'allais pouvoir raconter à mon enfant qu'on avait fait l'amour pour le faire. Alors tout le monde se moque de moi en me disant, personne ne dit à son enfant qu'il a fait l'amour.
Les enfants le savent.
Personne ne le dit. J'avais, oui, mais moi, je pense que comme on a un schéma particulier et atypique, et bien moi, je serais heureuse de lui dire qu'on a fait comme ça.
La clinique accordait ses implantations avec double don jusqu'à 50 ans et demi. Et donc, je suis du mois de décembre, donc deuxième implantation, le 1er août ou le 2 août, je ne sais plus, 2012. Et au retour, quelques jours après, prise de sang qui m'annonçait que le taux des bêta-HCG augmentait de façon exponentielle. Et puis voilà, vraiment conformément à deux grossesses, enfin une grossesse double on va dire plutôt. Oui, parce que j'avais eu le choix de faire implanter deux embryons ou un, donc j'ai choisi deux. Alors bien évidemment, les premières semaines, j'étais euphorique, mais il ne fallait pas trop que je le montre, étant donné que personne n'était vraiment au courant. Et bien évidemment, quand moi j'ai su que j'étais enceinte, moi, j'étais super contente. J'en suis encore émue d'ailleurs, parce que c'était époustouflant, merveilleux, quoi. C'est terrible. Et donc, ils sont nés en 2012, et là, j'avais 51.
Pendant 9 mois, nous avons essayé. On a calculé, on faisait des tests d'ovulation et on calculait les moments précis où il fallait qu'on fasse l'amour. Une fois, Luc était en création d'un spectacle à Marrakech. Je suis allée à Marrakech parce que ça tombait pile poil dans le timing. Et ça a fonctionné au mois de septembre 2016. Voilà.
Ludovic voilà. Et Yannick, vous, pendant ce temps de tentative de conception, où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous aviez l'impression que vous pouviez ne pas avoir votre place dans ce projet?
Non.
Physiquement, à un moment donné, oui, on n'avait pas notre place. Voilà, on allait faire un tour, on va dire.
On n'était pas leur côté à chaque instant.
Voilà. Mais non, parce qu'on était totalement associés à la démarche et qu'on avait vraiment envie aussi, je pense, tous les deux, que ça marche.
On était à leur côté, mais effectivement, on était dans une attente la plus complice, constructive possible.
Et je pense tout aussi triste que vous, les mois où ça n'avait pas marché, quoi, de découvrir les résultats, de dire, bon, ben voilà, ça...
Voilà.
Maman, oui. J'ai fait de la pousse et c'est caca.
Ça fait caca. Ouais. Alors, je la couche, mon amour.
Et qu'est-ce qui change ta couche, Julie?
Ça, très souvent, quand même, ça va, voilà. Un privilège à ce niveau-là. Vous, c'est assez équilibré, moi, c'est souvent ça.
Ah non,
quand même.
C'est pour moi.
C'est souvent papa, ouais.
Ah, ben, les parents, on a le sale boulot, hein. C'est quand c'est la vie quotidienne, changer la couche, j'ai mon nez qui coule, je suis malade, bon.
Est-ce qu'il y a des choses que Yannick ou Ludovic, vous faites vraiment spécifiquement avec Billy?
Ça dépend si le papa et la maman sont là, en fait. Parce qu'effectivement, dans ces moments-là, son repère, là où ses repères particuliers, c'est quand même papa ou maman. Mais voilà, on attend aussi, parce que quelquefois effectivement elle peut être un peu montrer un peu d'énervement, voilà, à pas obtenir ce qu'elle veut tout de suite. Et puis elle se rend compte aussi qu'on est là et que voilà, on peut très bien lui donner la même chose. Mais c'est vrai que la présence ou non de son papa ou de sa maman fait que peut effectivement à un moment donné, voilà, nous mettre un peu de côté avant de nous retrouver avec plaisir, notamment pour le lever, oui, pour le changement de la couche.
Le matin, oui, ça c'est. Le matin, c'est beaucoup papa et maman le matin, quoi.
Nous, des fois, elle ne veut pas nous voir,
non, carrément.
Les 5 premières minutes de réveil.
Tout simplement. Il y a un rejet, voilà, mais qui s'arrête assez vite parce qu'elle sait quand même qu'elle dépend aussi de nous, qu'on est aussi ses repères. Et on sait très bien nous-mêmes à justement pas du tout prendre ombrage de ça et de se dire que. Voilà, on la met en condition, on lui dit voilà, tu fais ce que tu veux, nous pendant ce temps-là, soit on prend notre petit déjeuner, soit on a d'autres choses à faire, et puis tu nous appelles quand t'es prête. Et ça arrive très vite.
Je pense qu'elle nous prouve suffisamment aussi par plein d'autres moments, enfin, et même tout le temps, enfin, voilà, qu'elle nous aime, qu'on est pour elle effectivement ses parents, enfin, il n'y a aucun doute, elle ne fait jamais de distinction. Oui, c'est peut-être plus sur des petites tâches quotidiennes, mais dans le rapport affectif, moi je ne ressens pas du tout d'être une sous-catégorie, vraiment pas. Ouais.
Non, non, c'est certain.
Et elle a toujours, quand on lui demandait, ou quand elle a commencé à dire nos noms, elle les disait toujours les quatre, toujours.
Il y avait même un moment où il y avait une sorte d'entité. Papa, maman,
elle. Ouais, elle nous amène partout, elle parle de nous et.
Elle a changé les paroles de la famille Tortue.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, voilà, c'est extrêmement mignon. Voilà. Il y a le papa Tortue, et la maman Tortue, et la Yaya Tortue, et le Ludo Tortue. On a un livre sur l'école maternelle, il y a un arbre généalogique à la fin, et elle essaye de. Elle place tout le monde. Donc c'est assez mignon sur les images. Je sais pas si je peux le dire, mais vous êtes au niveau des grands-parents, hein, tous les deux. Hein. Voilà. Donc elle se met elle, et puis elle dit il y a papa, maman, et après elle cherche des visages pour. Parce que Yannick et Ludo sont forcément sur cet arbre pour elle.
Clémentine qui est à Londres en ce moment, c'est Domiti qui dort dans cette chambre-là, parce que ça permet de délester la chambre des filles. Bon, elles sont contentes d'être à trois aussi, mais comme elles se couchent un peu plus tôt de temps en temps, c'est bien aussi qu'elles aient ces moments à elles ou pour la sieste. Ici, c'est les Espérance et Eugénie qui dorment ici. Nous sommes ici à côté, la chambre de Pierre et de moi-même. Et alors à l'étage. La chambre de Félix là, qui est encore à l'école. La chambre de Théophane qui révise son bac. Français. Voilà. Là c'est la chambre de Pierre Éloi. Et là on a un lit inoccupé. En fait c'est ceux qui habitent à Londres ou qui habitent à l'étranger. Enfin qui voilà, quand ils viennent, ils ont leur place ici. Ici, c'est la chambre de Charles avec pareil encore un lit inoccupé qui sert quand on a des retours à la maison. Et la chambre d'Augustin. Voilà, c'est une petite chambre, mais il y a tout ce qu'il faut. Il ne manque rien, je crois. Et puis après, on a encore deux chambres en bas. Alors ici c'est la buanderie avec deux douches supplémentaires et puis pour le lavage, le chauffe-eau. Une chambre supplémentaire là pour les grands. Alors c'est Henri qui est en Allemagne qui va là, mais en ce moment elle est inoccupée. Et ça c'est notre étudiant là qui est pas là en ce moment puisqu'il rentre à 23h tous les soirs. Et qui est très très dans ses études. Et là nous avons le bazar familial qui est notre cave. Avec un congélateur supplémentaire, tout ce qu'on peut imaginer qu'on a besoin de stocker. Du lait. Voilà. En fait, ça tourne tout le temps. Là, vous voyez, le sèche-linge tourne et c'est peut-être ça la différence. C'est que ça tourne beaucoup. C'est pas forcément la taille, même si on a une 6 kg pour la machine à laver, c'est qu'elle tourne assez régulièrement.
Est-ce que cette maison, elle a subi des modifications notables pour
accueillir ? Oui, énormément. En fait, je fais en sorte que les chambres ne fassent pas lourdes. Quand on arrive, on ne se dit pas « Ah là là, ça fait dortoir, ça fait ceci ». Je veux vraiment que quand on arrive dans la maison, on ait l'impression qu'il y a encore de la place. Que chacun ait sa place, vous voyez ? Qu'on ne soit pas en train de se dire « Oh, il y en a partout, mais comment ils font ?» J'ai envie que ce soit... que les choses aient l'air fluides, en fait. On me dit toujours « Ah, mais tu n'as pas de temps pour toi ». En fait, chaque instant est pour moi, je les ai choisis, j'ai choisi tout ce que je fais. Donc du coup, c'est du temps pour moi. Pour nous, avoir 3-4 enfants, c'était un peu notre modèle familial et on pensait qu'on aurait 3-4 enfants. En fait, c'était difficile pour nous d'imaginer autre chose puisqu'on ne connaissait pas vraiment autre chose. Il y avait bien des gens qui en avaient 5 ou 6, mais bon, enfin, c'était quand même extraordinaire.
C'était pas du tout un projet que vous aviez en vous rencontrant de dire on va faire une dizaine d'enfants ou plus.
Non, pas du tout, pas du tout. Les enfants sont venus les uns après les autres, toujours avec à peu près 2 ans d'écart ou 20 mois d'écart. C'était assez amusant, comme les espaces entre chaque enfant, c'est assez régulier pour qu'on retrouve un équilibre, pour que mon corps se sente prêt, pour qu'on ait envie d'accueillir cet enfant. Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment le fruit d'une réflexion. Très travaillée, je ne sais pas, parce qu'au bout d'un moment, ça s'impose. Je pense qu'il y a des périodes quand le bébé vient de naître, surtout peut-être vers le 5e, 6e, c'est lourd et dense et on se dit voilà, ma famille est peut-être au complet, peut-être ça nous est arrivé de penser ça. Et puis finalement, l'enfant grandissant, les nuits devenant plus tranquilles, on se dit mais pourquoi pas cet enfant de plus, et c'est surtout cette vie en plus. Et puis quand on voit le petit qui a là 2 ans et demi ou un an et demi, et qui commence à marcher tout seul et qui sont tellement mignons, et on se dit c'est possible, alors pourquoi pas.
Il faut retrouver un équilibre, une complicité même qui peut changer entre les frères et sœurs et vous avec l'arrivée d'un nouvel enfant.
L'équilibre est c'est très déstabilisé et qu'effectivement, il faut rechercher tous ces nouveaux équilibres. Alors, c'est sûr que dans les instants après la naissance, on peut vraiment être dans l'émerveillement, mais parfois, ça dure pas très longtemps pour les petits, parce que la maman est toujours à la maternité, elle rentre pas tout de suite avec le bébé dans les bras, et il peut y avoir des déceptions à ce niveau-là. Après, c'est vrai que Pierre, souvent, il fait très très bien face, et puis je rentre assez rapidement de la maternité. Mais voilà, pour l'époux, c'est quand même compliqué aussi de rester seul avec les enfants et de faire face au quotidien. Enfin, puis quand on rentre, la mère est pas forcément... au top tout de suite, et donc voilà, tous ces équilibres, et puis c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître, en fait, hein. Je pense que Pierre et moi, on a appris à se connaître dans des moments qui sont plus difficiles comme ça, et on a appris à faire face, et c'est ça qui fait aussi la profondeur d'un couple, après. Et de la famille également aussi, parce que tous, on a vécu ces moments-là, enfin peut-être pas tous, puisqu'il y en avait des grands qui n'étaient pas forcément toujours là à chaque naissance, mais c'est vrai que aussi ils ont vu comment on avait fait face à ces moments-là et comment eux-mêmes ont pu avoir leur part pour essayer d'assouplir les choses et de mettre de l'huile dans les rouages, et ça c'est formateur pour eux aussi.
Est-ce que vous pouvez me parler de la manière dont vous quatre, déjà avant d'avoir votre enfant, vous avez fait famille ?
On faisait pas famille avant,
non,
je pense.
Non, hein, non.
On était amis.
On a pas changé au cours de, on va dire, de ces 5 dernières années. On se voyait très très souvent en tant qu'amis, voilà. Mmh. Et en fait, ça n'a pas changé. Et avant que Billy arrive ou avant que je sois enceinte, on va dire, on avait certes un objectif différent. En plus, on va dire un objectif en plus, mais ça n'a pas changé notre rapport à nous. C'est le fait que je sois enceinte au début qui là où ça a focalisé sur ce qu'il y avait dans mon ventre. Et après Billy quand elle est née, mais sinon j'ai pas la sensation que... Et c'est maintenant que Billy est née où là la relation amicale elle est plus compliquée, parce que en fait ça tourne beaucoup autour de Billy. Quand on se voit, on parle quand même beaucoup de Billy parce qu'on a des choses à échanger, des informations à donner et à partager aussi de ce qu'on a vécu avec Billy. Et c'est beaucoup plus compliqué pour nous de se voir, de retrouver un espèce de une relation d'amitié.
C'est en train de revenir. Avec le temps.
Maintenant, on s'organise des temps où on fait l'effort de s'organiser des temps. Oui. On dit, par exemple, avec Luc, on ne prend pas Billy ce soir, ni l'un ni l'autre. Et on va au théâtre, on va boire un verre.
Après, ce qu'on fait, du coup, on se voit
plus souvent tous les quatre. Enfin, tous les cinq avec Billy, mais tous les quatre, où on se fait des dîners ou des apéros le soir. Et on se retrouve tous ensemble, on couche Billy. Et ensuite, on passe du temps ensemble.
Et voilà. On parle de Billy.
Pas que. Mais bon.
Très tôt, J'ai pu dire, le bébé avait l'un ou l'autre, ils avaient autour de 2 mois, 3 mois. J'ai pu leur dire, voilà, maman est toute seule, maman voulait rencontrer un chéri pour avoir des enfants, elle n'avait pas de chéri, donc elle a eu quand même des enfants et vous êtes là. Vous n'avez pas de papa, mais maman est là. Et puis un petit peu plus tard, j'ai pu expliquer, même s'ils n'avaient pas encore la parole, m'expliquer, maman avait dû aller dans une clinique pour avoir le don de la petite cellule du monsieur, de la petite cellule de la dame, pour faire les petits bébés que vous êtes. Et je l'ai réexpliqué plusieurs fois, sans qu'ils me posent de questions. Alors par rapport à l'école, maintenant, donc plus récemment, ils ne me questionnent pas, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais quand on en parle, ils comprennent très bien que des familles, il y a un papa, il y a une maman, il y a des familles où il n'y a pas de papa, il y a des enfants qui ont un papa d'un côté, une maman dans une autre maison, et ils vivent ça au quotidien, donc ça ne les choque pas. Ils ne m'ont pas, pour le moment, fait de reproches, je pense qu'il y en aura peut-être qui viendront. Mais j'assumerai comme je l'ai fait là, et puis je pense que, voilà, c'est sûr qu'ils ont peut-être des petits chagrins, je sais pas, ils m'en ont pas encore parlé. Puis j'essaierai de continuer à faire comme j'ai fait, d'être claire sur leurs origines, et puis ils savent la famille à laquelle ils appartiennent, c'est-à-dire la famille de ma mère. Il y a mes frères et sœurs, j'ai un oncle qui est très présent, voilà, les cousins, les cousines, une famille élargie très grande. Ils savent qu'ils appartiennent à tout ce cosmos.
Je suis souvent dans le quartier, d'une part parce que les gens avec qui j'ai vécu, c'est quasiment comme ma famille, hein. C'est pas mes parents, mais je dirais que c'est mes oncles et tantes. C'est comme ça que je les présentais quand j'étais petit, parce que j'avais honte d'habiter en communauté. Honte parce que les autres comprennent pas, que mes copains d'école, c'était pas encore des choses très très évidentes. Et puis quand on imaginait communauté, on voyait un truc tout de suite très baba cool, etc. Alors que c'était pas complètement le style. Il y avait un petit côté hippie, mais pas démesuré. C'était plutôt des profs, un sociologue, une infirmière, un comptable, des artistes aussi, enfin voilà. Alors, je m'appelle Denis. Là, on est dans le 19e arrondissement, juste en haut des buts de Chaumont. Et donc ici, nous sommes devant le 12 rue Mouzaïa, et c'est la maison dans laquelle j'ai vécu en communauté. J'avais 9 ans quand on est venu s'installer. Mais les recherches avaient commencé un petit peu avant, au moment où mes parents se sont séparés. L'idée étant que, comme moi, ça ne me plaisait pas non plus, c'était qu'ils continuent à rester ensemble, mais dans un autre cadre, et donc là, dans le cadre d'une communauté. C'était une maison avec beaucoup de chambres, des espaces communs, il y avait un bar au sous-sol, mais un vrai bar, hein, en zinc, etc., avec un percolateur, des trucs à pression, etc. Et le reste, c'était des chambres, tout équipées, avec chacune son petit lavabo. Donc ça a été assez facile de rentrer dans les lieux, mais la première visite, ça a été pas vraiment une foire d'empoigne, mais c'était chacun choisit sa chambre, comme quand on arrive dans une nouvelle maison. Et donc tout le monde veut la meilleure chambre, celle qui est avec la plus jolie vue, avec le moins de bruit, avec ceci, cela, la plus grande surface, enfin voilà. Et je me souviens que j'ai choisi la dernière chambre de la maison, celle qui était au dernier étage, tout au bout du couloir, avec vue sur le jardin, et que mon choix a été respecté. Les adultes ont tout de suite été, dans le mode d'organisation, présentés comme les tuteurs de l'ensemble des enfants. Donc il y avait une relation d'éducation et de responsabilité des parents pour leurs enfants à eux, et puis une espèce de responsabilité globale sur le groupe des enfants, quand les parents étaient responsables du groupe des enfants. Bon, on a fait beaucoup de fêtes, hein. C'était un endroit où il y avait pas mal de fêtes, on faisait des bals masqués, en plus il y avait beaucoup de gens qui étaient séparés, qui habitaient là, donc les enfants étaient souvent en garde alternée, donc d'un seul coup il y avait le week-end ou à certaines périodes plein d'enfants qui débarquaient, et puis ça mettait une ambiance quand même le assez gaie, assez mouvementée là-dedans. On organisait des grandes sorties, on allait en sortie collectivement, par exemple le dimanche matin, on avait un petit rituel, on allait à la piscine David Danger, qui était une piscine olympique, pas très loin dans le quartier. Très vite, ils avaient institué un système où chaque soir, les parents, il y avait un parent qui devait s'inscrire pour faire la bouffe le soir, pour tout le monde. Un service pour les enfants, hein, pour les adultes. Et puis faire les courses, faire le ménage, etc. etc. Chacun mettait ce qu'il avait dépensé. Puis après, il y avait un total qui était fait. Et puis, c'était remboursé au prorata des dépenses, etc. Donc, il y avait toute une organisation collective comme ça qui obligeait chacun à s'investir un petit peu dans la vie collective. Et donc, forcément, bah, chacun des parents devenait responsable de tous les enfants. Et du coup, surtout arrivé effectivement en préadolescence, bah, en fait, plutôt que d'avoir deux parents, j'en avais 7 ou 8 qui, à chaque fois, me brimaient, entre guillemets. En tout cas, me disaient, tu devrais pas faire ci, ou pas ça, ou t'as fait ci, qui a fait... Enfin, voilà. Donc, j'avais les remontrances supplémentaires de plein de gens. Alors, c'était aussi une richesse, parce que bah, j'avais aussi de l'attention de leur part, des conseils, du jeu, voilà. Il y a des gens avec qui j'ai entretenu un certain type de rapport, quoi. Par exemple... L'un de mes oncles, entre guillemets, avec qui on avait pris l'habitude de faire de la lutte. Un type assez costaud, assez athlétique. Et nous, les enfants, on avait l'habitude de se battre contre lui. Mon père travaillait beaucoup, il était prof, il travaillait le soir aussi. Il avait souvent des cours assez tardifs. Puis c'était début des années 80, donc c'était une période encore assez militante. Ils étaient tous militants, associatifs. Ils avaient plein d'activités différentes, donc il y avait toute une vie qui faisait qu'ils n'étaient pas non plus forcément très très dispo, et que le fait d'être plusieurs, de casser un petit peu ce cadre familial très quotidien, très plan-plan, bah, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles.
Alors le cône,
il y a combien de hauteurs?
Il y a une hauteur qui va de là et perpendiculaire, oui, au plan.
Après, non.
La pyramide.
La pyramide, il y a combien de hauteurs?
Il y a...
Une
hauteur. Et combien d'arêtes? Combien d'arêtes sur la pyramide?
Je sais pas, moi.
Ah oui, c'est difficile, hein.
Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
C'est
8.
Ça.
Oui, c'est ça. 8 arêtes.
C'est bien. Tu comprends?
Oui.
Voilà. Bah là, on va aller au vent. Combien tu as de maisons, Billy?
2000.
Elles sont où, tes maisons?
Là.
Là. L'autre, elle est où?
Papa Hugo.
Ouais. Là, on est dans la maison de maman et Yaya.
Et de Billy.
Bah
oui.
Oui, ça, il faut faire attention, parce qu'on passe notre temps à dire qu'on va dans la maison de maman et Yaya et dans la maison de papa et Ludo. Et en fait, on oublie de dire que c'est aussi la maison de Billy.
Mais elle nous le rappelle.
Elle nous le rappelle. Mais en fait, les enfants qui sont dans un schéma classique, on dit c'est chez eux. Et Billy, il faut qu'on fasse attention, parce qu'on dit souvent maman, Yaya, papa et Ludo, et il faut qu'on fasse attention à dire
bien que c'est la maman. Et ça
marche aussi
pour ses affaires, c'est assez drôle, ça nous arrive souvent avec Ludo dans sa chambre, comme il y a des transferts de vêtements entre les deux maisons, et donc on dit mais ça c'est à nous ou c'est aux filles. Alors Ludo, par exemple, dit bah, c'est aux filles, il faut le remettre dans le sac pour qu'elle le récupère, et il y a Billy qui crie non, c'est à moi. Voilà, donc elle sait que ce sont ses affaires, elle comprend pas pourquoi on dit c'est aux filles ou c'est à nous. Donc on lui explique, on lui dit mais non, c'est juste qu'on dit que ça se range là-bas. Billy a quand même été beaucoup avec ses mamans les premiers temps. Le partage de la garde s'est fait au fur et à mesure. Nous, on a été là au début, mais on a eu quand même une année où bah, une heure de transport pour elle, revenir, et on s'est rendu compte que... Cette chose qu'on croyait finalement simple en se disant bah, « il y a deux maisons, c'est comme ça, et puis ça permet qu'elle voit des quartiers différents ou qu'elle soit dans des zones différentes », on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner davantage. Donc on a déménagé et on est à 2 stations de métro.
On fait 2 nuits, 2 nuits, mais comme il y a 7 jours dans une semaine, on fait 2 nuits, 2 nuits, 3 nuits, 3 nuits, 2 nuits, il y a un espèce de roulement comme ça, c'est équitable. C'est équitable, c'est carré, c'est prévu. Régler. Voilà, tout est prévu. Et après, c'est souple.
Bon. Elle va aller chez le coiffeur cet après-midi.
Ah oui.
Pour la
première
fois de sa vie.
Vous allez l'emmener tous les 4?
On n'y allait que toutes les 2, mais si vous voulez venir, évidemment.
Alors, on verra.
Ouais, toi, Luc, tu dois faire des gâteaux pour demain. Et moi, je vais voir un spectacle parce que je travaille dans le spectacle. Donc, je ne vais pas pouvoir être là. Mais on aura des photos, voilà.
Et une petite mèche de cheveux.
On s'envoie beaucoup de choses, hein, oui, en fait, sur notre compte WhatsApp.
On a un groupe WhatsApp
qui s'appelle Une vie avec Billy Chou. Voilà. C'est son petit surnom.
Une vie avec Billy Chou. Et on s'échange des choses toute la journée. que ça peut être des choses pratiques d'horaire ou de rendez-vous ou de vêtements ou de voilà. Et aussi des photos, énormément de photos, et de toutes les anecdotes.
Voilà, quand les uns n'ont pas Billy, enfin voilà, voilà. Donc,
même si on l'a pas, on sait à quelle heure elle s'est couchée, on sait si elle a bien dormi, on sait si elle a bien mangé,
on sait tout.
Ouais, ouais. Peut-être pas tous les jours non plus. Enfin, il y a des trucs factuels, on les sait pas forcément tous les jours, mais voilà.
Même si parce que ça nous est arrivé de partir en vacances par couple, et donc l'enfant reste, parfois Billy reste à Paris avec les autres. Et quand même, là, on était à New York il y a 2 mois. On avait des nouvelles plusieurs fois par jour. Ça, c'est important.
Le réveil, le coucher.
C'est la fraise et vanille.
Et des bananes et des pommes.
Aussi.
Comment vous définiriez votre famille ?
Dans la cuillère. Dans la cuillère.
Moi, je dirais qu'on est une famille, en fait.
Ouais,
on est une famille.
La seule chose
que je pourrais dire, moi, c'est qu'on est une famille où on n'a pas de référentiel, nous. On n'a pas de gens autour de nous qui ont le même schéma que nous. On n'a pas d'exemple. On a des amis qui ont fait un peu comme nous, parce qu'à 4, mais c'est pas vraiment une garde alternée. C'est un papa qu'elle ne connaissait pas. Voilà. Nous, notre schéma, moi, je connais personne. Et donc, c'est un schéma qu'on invente ensemble chaque jour. Je trouve que c'est une vraie liberté de pouvoir inventer ensemble comment élever un enfant à 4. Oui. Comment.
Parce que... C'était un pari, hein, quand même, parce qu'effectivement, c'était pas gagné du tout au début, et je pense que chacun a trouvé assez rapidement sa place. Enfin, je veux dire, Ludo et moi, peut-être c'était moins spontané ou moins inné. Mais je pense que chacun a son rôle, on est assez complémentaires. Et...
Comme tu dis, un pari, parce que, comme dit Sarah aussi, voilà, comme il n'y a pas de référentiel, on se dit toujours, est-ce que c'est la meilleure façon d'élever un enfant ? Parce que ça nous renvoie aussi à des schémas de société, tout simplement. Et donc Billy a 2 ans maintenant, et tout ce qu'on partage aussi ensemble sur la meilleure façon, en fait, de se transmettre les choses ou de lui transmettre des choses, ben c'est ça qui est aussi qui est très beau et qui est créatif et en même temps qui nous soude tous les 5.
Vous êtes toute seule à vous occuper de tous les enfants, et vous n'avez pas d'aide à part votre mari, j'entends. Aucune aide.
Non, il n'y a pas d'aide.
Alors, je me suis lancée dans les couches lavables depuis 2 mois ou 3 mois même. Non, ça fait un bon moment maintenant. C'est astreignant. Et en fait, j'arrive à les utiliser assez souvent, mais pas toujours. Là, il y a Charles, Espérance, Domiti et Eugénie qui prennent leur bain. Qu'est-ce que tu fais ? Tu bois l'eau du bain ? T'as soif ?
C'est pas du tout dur de me faire sortir, moi, par contre.
Parce que c'est pas dur ? T'aimes bien sortir du bain ?
Moi aussi, c'est pas du tout dur.
Non, non, surtout quand je vous dis qu'elle s'est pas sortie. C'est ça qui l'a fait sortir, après.
Dans la cour du haut, on a vu une abeille.
Et qu'est-ce qu'elle faisait ?
On a regardé avec Elie et Camilla, mais elle ne bougeait pas et après elle est partie.
Vous l'avez touchée ?
Non, on l'a pas touchée.
Elle était encore vivante ?
Oui.
D'accord.
Elle voulait y aller. On ne sait pas de quel pays elle venait.
Ah.
Peut-être qu'elle nous a suivis.
D'accord. C'était une reine ? Elle était là avec toute sa famille ?
Non.
Il y avait tout un essaim ?
Non.
Non, t'es toute seule ?
Oui.
Ah bon, c'est peut-être une ouvrière perdue.
Avec vos enfants, vous parlez de profondeur des relations. Quand on a autant d'enfants, est-ce que c'est facile de nourrir une vraie relation avec eux, avec chacun d'entre eux ?
Alors, c'est chacun à son niveau. Hein. On nourrit pas une même relation avec un enfant de 2 ans et demi. Et en même temps, voilà, quand on est présent à un jeu, quand on est présent à une petite chose, c'est... un éclat de rire et tout ça, c'est ça nourrir une relation pour un enfant de... Après, c'est écouter un enfant de 5 ans sur « elle est tombée dans la cour, elle a vu une abeille », voilà, c'est ça aussi. Après, ça peut se faire, il peut y en avoir plusieurs. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire aussi, de se faire un tour de table au moment du dîner, on dit « qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui et qu'est-ce que j'aurais aimé ?» Alors, on n'accuse personne, mais « qu'est-ce que j'aurais aimé ?» Et ça, on le fait assez régulièrement et les enfants aiment bien.
Et ça vous permet de mieux les connaître, vous pensez ?
Alors, ça permet d'être très surprise, surtout sur certaines choses. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Ah tiens, il a aimé ça ! Et on se doutait pas du tout. Et surtout, qu'est-ce que j'aurais aimé ? Tiens, et qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire pour que la chose se produise pas ? Ou qu'est-ce qu'on aurait pu arranger ? On écoute dans ces cas-là. Et
qu'est-ce qui fait le ciment de votre famille ?
Alors, je vous dirais l'amour, mais c'est super bateau. Ça l'est, mais voilà, c'est faire des choses ensemble, en fait. Faire des choses sympas ensemble. Là, on nous a prêté une grande maison à Biote. On a pu visiter tout la Côte d'Azur. Il y en a qui sont venus d'Angleterre, de Bonn et tout ça. Et faire des choses ensemble, ça, c'est important pour tout le monde. Avoir des moments de famille ensemble, tout simplement des déjeuners, des dîners, des fêtes. On va avoir un mariage, donc tout le monde sera là encore. Et oui, il y a encore des moments où tout le monde sait que c'est important, en fait.
Et comment est-ce qu'on construit sa vie à soi quand on est inscrit dans un groupe aussi dense et nombreux ?
Il faut leur laisser la liberté. Il faut leur laisser de la liberté et pas toujours les solliciter, en fait, en leur disant tiens, tu pourrais me faire ceci, parce que tout le temps, je pourrais leur dire tiens, tu peux me mettre la table, tiens, tu peux me. Et justement, ce qui est plus important, je trouve, c'est qu'ils sentent ce qu'il y a à faire. Vous voyez, Pierre-Éloi qui prend pas forcément le bébé tout le temps, là, il sentait bien que c'était bien d'avoir un enfant qui fasse pas de bruit ou qui crie pas ou qu'on s'en occupe au moment où je parle à la radio ou que Théophane, il descend, il voit que la table est bientôt à mettre. Que ce soit plus dans la spontanéité que dans un. Il n'y a pas de tableau de tâches où les enfants doivent faire des choses. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas.
Mais on le sent aussi quand on lit votre livre. Vous racontez un accouchement où vous êtes allée toute seule à la maternité.
Ah oui.
Alors que vous étiez à terme, vous avez des contractions depuis des heures.
Mais parce que j'avais déjà sollicité Pierre, que ça avait été compliqué les soirs d'avant, je dis mais là je peux pas lui refaire le coup, il faut qu'il dorme. Je fais attention justement, je suis très 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 vigilante pour tout ça, pour que chaque enfant ou chaque personne dans la famille, Pierre y compris, et sa place de liberté, que ce soit pas qu'on n'ait jamais du trop plein et que ça éclate pas, en fait.
Et du fait de toutes les tâches que vous avez en tête, que vous essayez de mener de front seul, est-ce que vous sentez que vous avez une place particulière dans cette famille ?
Oui, je suis sûre d'avoir une place particulière, pas parce que je veux me mettre en, mais parce que j'essaie de prendre sur moi justement tout ce lien, toute cette légèreté, en fait. Je pense que c'est mon rôle d'être l'âme de la maison, en fait. Voilà, quand on rentre à la maison, il y a une présence, il y a quelqu'un qui sait où sont les choses. Quand on me demande, on n'arrive pas dans un chaos. Et justement, c'est à moi de rendre la maison paisible. Et rendre la maison paisible, c'est au dernier moment d'avoir un repas qui est prêt quand les enfants arrivent et pas que je sois allée me promener je sais pas où. Et puis d'ailleurs, ça me rendrait mal à l'aise. Et c'est pas quelque chose qui me pèse parce que c'est mon boulot, en fait, c'est mon travail.
Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces fenêtres dans cette maison ? Première chambre, c'était un couple d'amis polonais. J'ai été les voir avec ma compagne il y a 2 ans en vacances. Bon, c'est eux qui habitaient là, qui ont habité longtemps. C'est les premiers à avoir eu un enfant sur place. Tomasz. C'est vrai qu'on se sent quand même de la même famille, éloignée, la famille polonaise. Et puis au deuxième étage, c'était la chambre de mon père, la première chambre. Et la chambre de mon beau-père était la chambre d'à côté, la chambre du fond.
Alors parce que votre père et votre beau-père habitaient dans la même maison ?
Pendant une période, ouais. Et c'était pas encore mon beau-père. Hein. Et puis après, ils sont partis habiter ailleurs avec ma mère et mon père est resté ici. C'est devenu très vite mes oncles et mes tantes quand je les présentais aux autres. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que, oui, finalement, ils avaient cette proximité-là et qu'ils étaient aussi importants pour moi que des membres de ma famille. Et puis, effectivement, moi, ce que je n'aimais pas, c'était l'autorité qu'ils avaient sur moi. Mais il faut croire qu'au bout du compte, ils ont plutôt manié correctement ou intelligemment cette autorité. J'imagine, parce qu'à chaque fois, il fallait argumenter, expliquer, discuter. Et j'avoue que maintenant, à mon corps défendant, ça m'a formé à discuter, argumenter avec mes propres enfants, puis avec les autres. Et aujourd'hui, mon père est décédé, donc ils ont récupéré le dernier étage, et maintenant ils ont loué le dernier étage, donc c'est bien la fin définitive de toute idée de communauté, puisque les espaces ont été séparés, privatisés, et reformatés comme des appartements individuels.
Mais ça devait être difficile pour vous de vivre dans la séparation de vos parents, la recomposition de votre famille dans cette communauté ?
En fait, c'est des choses que j'ai vues par la suite, mais sur le moment, j'en étais pas conscient. Mes parents m'ont pas dit « Ah bah on fait ça pour rester auprès de toi et être toujours là sans être toujours ensemble ». Voilà, bon, on en a parlé un petit peu avec mes parents par moment, mais beaucoup plus tard, quand moi-même j'ai commencé à devenir père. J'avais fini par annexer, au bout de quelques années, un espace de la maison qui était le grenier. Un grenier magnifique, énorme, alors pas très très haut, hyper mansardé, on pouvait tenir debout à peine au milieu du grenier. Je m'endormais en écoutant Wish You Were Here des Pink Floyd à fond la caisse. Toute la nuit, ça tournait en boucle, j'avais un auto-reverse. En plus, c'était au-dessus de la maison, un peu isolé, etc. Et un jour, alors que j'étais absent, un court-circuit électrique a eu lieu au grenier. Tout est parti en fumée. Le toit est parti en fumée. Et ce qui s'est passé, c'était un samedi soir, me semble-t-il, un week-end en tout cas. Et personne ne savait si j'étais là. Et quand je suis arrivé à 10h30 du matin, le feu avait été éteint, il y avait des pompiers partout dans les escaliers. L'une des personnes avec qui j'avais qui était la propriétaire de la maison, avec qui j'avais les rapports les plus conflictuels parce qu'elle était très carrée, un peu autoritaire, etc. Et puis surtout qu'elle gérait beaucoup la maison. J'avais beaucoup de problèmes d'autorité avec elle. Et quand je suis arrivé dans la maison, elle m'a sauté dessus, elle était en larmes, elle était persuadée que j'étais en haut. Et d'un seul coup, sa peine et son soulagement quand elle a vu que j'étais vivant, que ça allait, etc., ça m'a touché plus que j'aurais imaginé. Et j'ai encore cette image de moi montant les marches en croisant des pompiers, de l'eau qui dégoulinait dans les escaliers de partout, et qu'elle me saute dessus, et que mais avec une espèce de soulagement dans le regard et en même temps de reproche, enfin tout ça mélangé, un amour monstrueux. Et c'est avec elle que maintenant je continue à avoir des contacts puisqu'elle habite encore dans la maison et on se voit même pendant les vacances. Et oui, c'est comme un membre de ma famille, quoi.
Ah oui, c'est pile l'heure de manger.
Le four est réglé sur l'heure du dîner.
Oui.
C'est comme ça que les enfants savent qu'il faut venir à
la maison. Non, moi je sonne. C'est clair qu'il y a pile à l'heure. Laisse-lui mettre, enlever sa cravate.
Chacun a sa place à table.
Non. Et par contre, c'est un grand, un petit. On met pas deux qui suivent. Voilà, c'est la règle. T'es content de voir papa, toi?
C'est parfait.
Tiens, ça c'est parfait, toi.
J'adore les champignons.
Alors, on va donner à papa.
Non.
Comme ça.
Bon.
Donc, tu reserviras
si
tu en prends d'autres.
Un petit peu pour ça.
Félix, grosse fin.
Ouais.
Ouais.
C'est la
comme ça.
Ça ira.
Voilà. On va s'asseoir à ta place, non?
Oui, une fois que tu seras servi. Un tout petit peu pour le meeting. Qu'est-ce qu'elle aime?
S'il vous plaît.
Une tomate peut-être pour l'unité.
C'est chaud? Souffle. C'est chaud.
Souffle. Elle est là-bas.
Elle est là. Le chat pique. Cet enfant est sursollicité. On fait attention. On fait attention. Mais quatre parents, pour elle, au début, on s'est dit, mais on va l'étouffer, la pauvre.
Plus les familles, quoi.
Plus, voilà, c'est ça, c'est qu'on est quatre, et on a de la famille, des frères, des sœurs, des cousins, des parents, des grands-parents. Donc Billy a 7 grands-parents, 3 arrière-grands-parents. Donc ça fait beaucoup de monde autour de Billy, et donc elle, c'est aussi pour ça que Billy parle très bien, elle est très, voilà, mais c'est normal parce qu'en fait on passe notre temps à lui parler. Quand elle arrive chez nous et qu'elle a passé 2 jours chez papa, on est collé à elle, raconte-nous. Donc elle a beaucoup de sollicitations. On fait attention de pas trop, parce que parfois on se rend compte qu'elle est avec nous et qu'on est quatre à lui parler en même temps, et elle nous regarde un peu genre, mais vous êtes fous.
Et qu'elle aime bien être tranquille aussi, ouais. Faire des choses dans son coin, et ça c'est très bien aussi.
Elle a des cousins et on a des amis qui ont des enfants. Et elle a pas beaucoup de cousins quand même. Des cousins, elle a pas tant ça.
Ouais. Mes neveux et nièces en fait, ils sont 3, voilà, et elle les considère vraiment comme ses cousins et réciproquement. Mes neveux et nièces sont à fond sur leur petite cousine Billy. Voilà, on essaye de se voir régulièrement. Ils habitent pas à Paris. Mais mais elle est totalement intégrée à toute ma famille. Enfin, je veux dire, il y a aucune différence du tout.
Vos parents et vos grands-parents, quand vous leur avez annoncé votre projet, ils étaient... Allez-y, ils vous encourageaient.
Ah oui.
Oui.
Je pense qu'on a, on a de la chance, hein, mais tous nos parents ont été extrêmement emballés par le projet.
C'était même providentiel.
Oui,
pour eux, on peut dire ça. Ils attendaient tellement.
Ils vont avoir un enfant.
Quelque chose qui n'attendait pas quand on annonce un enfant, tout d'un coup, de toute façon, pour les grands-parents qui avaient fait une croix dessus, qui n'auraient pas de.
Si, moi, il y a eu ma grand-mère, quand je l'ai annoncé, quand même, qui a eu une réaction particulière. Ma grand-mère, qui ne savait pas grand-chose de ma vie, que je n'ai pas forcément. Parler, quand j'ai annoncé que j'ai annoncé en famille, une grande tablée de famille, et je me suis levée et j'ai annoncé que j'étais enceinte. Ma grand-mère n'a pas du tout compris, pensait vraiment que j'étais une, je sais pas, célibataire, on savait pas trop. Et elle s'est levée de table et elle a dit « Mais qui est le père de cet enfant ?» Et donc je lui ai expliqué qui était le père de cet enfant, que c'était Luc, un ami, voilà. Et c'est très bien passé. Et elle a trouvé ça super.
Vous disiez que vous formiez donc une cellule familiale à trois. Est-ce que la question d'un homme qui arriverait dans votre vie, vous vous la posez en termes de « pourra-t-il s'intégrer à notre famille ?»
Alors, je ne la pose pas en termes « pourra-t-il s'intégrer ?» parce que je sais qu'il ne pourra pas. Donc, c'est déjà...
Pourquoi ?
Ça, c'est déjà... parce que c'est impossible, je pense. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Bon, j'ai eu quelques copains, mais... C'est pas évident. Moi, je pense que, avec mon parcours, mon vécu, je pourrais pas vraiment partager le quotidien avec quelqu'un. Donc,
partager la parentalité.
Alors, la parentalité, ça me paraît compliqué. Si je rencontre une personne qui a à peu près mon âge, qui aura déjà ses enfants, voire qui sera déjà grand-père. Je pense pas qu'il aura envie de s'investir avec des enfants de 7, 8, 9 ans.
Mais est-ce que vous auriez envie de partager ?
Ah ben ça aurait été mon rêve, mais je vois bien que bon, j'ai rien trop fait pour.
Nous, enfin en tout cas moi je suis vraiment pour qu'il y ait un statut de beaux-parents, pour qu'on puisse adopter l'enfant à 4. Notre idéal ce serait ça, ce serait qu'il puisse adopter le Billy. Et pouvoir être, avoir le même statut juridique. Il y a, la loi française ne permet pas aux beaux-parents d'avoir un statut. Le statut de beaux-parents n'existe pas. La seule possibilité qu'on a, que nous n'avons toujours pas faite, mais que nous devons faire, c'est de baptiser Billy civilement et de mettre Yannick et Ludo, parrain et marraine de Billy. Ça n'a pas de poids, de valeur juridique. Ça a une, la seule valeur que ça a, c'est que si Luc et moi, on décède, tous les deux. Si Yannick et Ludo demandent la garde, le juge peut être influencé par le fait que nous avons décidé que c'était les parrains et les marraines, et en plus d'être les beaux-parents quand même. Ouais. Donc c'est la seule chose qu'on peut faire. À la crèche ou à l'école, par exemple, il faut qu'on fasse, nous, une attestation en tant que parents biologiques. Comme quoi, on accepte qu'ils viennent chercher Billy autant que nous. Si Billy a un problème de santé, ils, ne peuvent pas prendre, ils n'ont pas le droit de prendre une décision à l'hôpital, voilà. C'est triste, c'est dommage, c'est plein de choses. Si jamais on se sépare et que ça se passe mal, évidemment on ne le souhaite pas, mais si moi tout d'un coup un jour je pète un plomb et je décide que Yannick n'a plus le droit de voir Billy, eh bien j'ai le droit de le faire. Et je trouve ça triste et extrêmement dommage vu l'implication. Là on est réellement une famille, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre question à se poser. On est une famille, on élève un enfant ensemble, on l'a voulu ensemble, on l'a créé ensemble. On est une famille, et donc pour moi, on devrait tous les quatre avoir les mêmes droits sur cet enfant.
Mais après, moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai accepté le risque. Enfin, je connaissais aussi les limites de notre schéma, et voilà, j'espère que tout se passera bien et que ce sera toujours en bonne intelligence. Et voilà, mais effectivement, j'ai pour l'instant aucun droit.
On se fait une petite chanson des crocodiles avant d'aller se coucher, Billy.
Pas crocodile.
Laquelle on chante alors ?
Baby Show.
C'est comment la chanson de Baby Show ?
Merci à la famille Blanchier, à Patricia, à Denis, ainsi qu'à Sarah, Yannick, Luc et Ludovic, et à leur fille Billy. Merci également à Pauline Chazot et à Nicolas Denoise. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Perrine Kervran, avec Marie-Vonne Abolivier, pour LSD. Un documentaire d'Émilie Chaudet, réalisé par Jean-Philippe Navarre.
On prépare la turbulette ?
Fils, fille, mère, père et tous les autres, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en famille, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, nous rêverons tous ensemble. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, une vie, une œuvre et l'expérience.